VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. La transition en cours à Washington s'accélère. À preuve, la nomination de deux responsables clés de la future administration du président élu Donald Trump. Le milliardaire républicain a choisi dimanche Reince Priebus, ancien patron du Parti républicain, pour le poste de chef du personnel de la Maison-Blanche et un proche conseiller pendant la campagne électorale, Steve Bannon, comme principal stratège politique. Le point avec Jean-Roger Bion.
Si Donald Trump a rassuré l'aile conservatrice traditionnelle du Parti républicain en confiant le poste de secrétaire général de la présidence à Reince Priebus, celui qui a dirigé le parti jusqu'à la victoire du 8 novembre, le prochain locataire du bureau ovale a surpris les habitués de la scène politique à Washington en choisissant comme stratège en chef et proche conseiller un homme accusé, entre autres, de liens avec le mouvement de la suprématie blanche. Steve Bannon, un ancien officier de la marine de guerre des États-Unis, employé de Goldman Sachs et responsable du réseau de nouvelles en ligne Breitbart, un organe de droite, avait rejoint la campagne de M. Trump en août dernier. Le choix de Bannon a suscité de vives réactions dans la presse et dans les milieux politiques, mais le chef de file des Républicains à la Chambre basse, Paul Ryan, a déclaré à la chaîne CNN, et nous citons, « Je fais confiance au jugement de Donald, je pense qu'il choisira celui qui servira le mieux ».
Sur le terrain, les manifestations aux États-Unis contre le président élu et ses politiques ne faiblissent pas. Hier encore, des dizaines de milliers de manifestants exprimaient colère et défiance dans les rues de New York et Los Angeles. L'analyse de cette grogne populaire avec Rachel Descoste, spécialiste des politiques d'immigration, jointe par Anastasie Toudièche.
Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont déçus des résultats électoraux, pas seulement parce que leur parti n'a pas gagné, mais parce que il y a des paroles qui ont été dites, il y a des politiques qui ont été avancées, qui portent atteinte à leur sentiment d'appartenance à leur pays. Et donc, il y a eu un mécontentement par rapport aux politiques qui ont été annoncées, par rapport aux paroles qui ont été dites, et les manifestations servent à montrer leur mécontentement publiquement. Ils espèrent peut-être même changer les politiques de M. Trump ou le faire changer d'idée. On va voir si ça va avoir effet.
On a entendu qu'il a mis de l'eau dans son vin, qu'il ne va pas supprimer Obamacare, mais qu'il va apporter quelques amendements. Ça ne suffit pas à calmer les foules, visiblement.
Je pense qu'une des choses qu'il a dit hier à 60 Minutes aide à calmer les gens, mais c'est pas assez pour estomper la rage. Il a pas assez parlé du racisme qu'il a soulevé dans l'électorat américain, et je pense que ça va prendre vraiment une dénonciation claire et précise des actes homophobes, racistes et antisémitisme et anti-musulmans pour vraiment convaincre les Américains qu'on va pas dans la direction qui va nous reculer vraiment dans une noirceur qu'ils ne veulent pas vivre.
Dans le cas où Donald Trump ne s'exprime pas sur ces sujets, en tout cas pas dans le sens où ces manifestants l'entendent, est-ce que vous pensez que nous risquons de voir des manifestations continuer dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois?
J'entrevois les manifestations continuer pour dans l'année qui suit, surtout le jour de la sermentation. Il y a déjà des manifs qui sont planifiées. Et tout au long, je pense, de l'administration Trump, même dire ces mots-là, c'est peut-être difficile de les sortir. Je pense qu'on va voir des gens qui vont manifester leur mécontentement publiquement. Il va y avoir beaucoup de difficultés à se faire accepter par tous les Américains.
Rachel Descoste, spécialiste des questions d'immigration, au micro d'Anastasie Toudièche.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, démission aujourd'hui du Premier ministre congolais. Auguste Matata Ponyo a dit avoir rendu son tablier pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application du récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle dans le pays, conclu avec une frange de l'opposition dans le cadre du dialogue national. Après 4 ans et demi de mandat, le Premier ministre sortant estime que son bilan est globalement positif. On écoute Augustin Matata Ponyo.
Je crois que le travail que nous avons abattu est très appréciable et nous pouvons dire que le bilan est globalement positif. Parce que dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale, il y a eu des progrès substantiels du point de vue macroéconomique, vous le savez. Nous avons enregistré des performances inédites en termes de stabilité des prix intérieurs, en termes de stabilité des taux d'échange, même si au cours des derniers mois, il y a eu des soubresauts liés notamment à la crise internationale et à cette sorte de tension politique.
Augustin Matata Ponyo, au micro de Thierry Kamboundi de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM. Vital Kamerhe, chef de la délégation de l'opposition au dialogue national, est donné favori pour succéder à M. Matata Ponyo. Après avoir été reçu par le président Kabila, Vital Kamerhe a affirmé que la nomination du prochain Premier ministre était imminente et que la formation du nouveau gouvernement interviendrait dans 6 à 7 jours maximum. Le président Joseph Kabila doit s'adresser à la nation demain mardi devant le Congrès, a déclaré pour sa part Robin Minaku, chef de la majorité et président de l'Assemblée nationale. En Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé aujourd'hui la démission du gouvernement dirigé depuis juin par le Premier ministre Bassirou Dia. Objectif, former une nouvelle équipe conformément à l'accord de Conakry signé il y a un mois pour sortir le pays d'une longue crise politique. Nigeria, au moins 10 chiites nigériens ont été tués ce lundi dans des affrontements avec la police à Kano dans le nord du pays. Et ce, au moment où les chiites minoritaires effectuaient une procession religieuse. Les précisions de Tatiana Mosso.
Les affrontements ont éclaté alors que des membres du mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite partisan de l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna, marchaient pour le traditionnel pèlerinage chiite qui se déroule 40 jours après la fête de l'Ashura. Les pèlerins devaient se rendre de Kano à Kaduna où leur mouvement a été interdit par les autorités. Le nord du Nigeria, où la charia est en vigueur, est majoritairement sunnite. L'hostilité envers les chiites est récemment montée d'un cran et les imams radicaux n'hésitent plus à faire des prêches haineux contre cette minorité, selon des habitants. Amnesty International a accusé l'armée d'avoir massacré plus de 350 musulmans chiites entre le 12 et le 14 décembre 2015 à Zaria, dans l'état de Kaduna, et d'avoir enterré les cadavres dans une fosse commune. Une enquête indépendante du gouvernement avait conclu en août dernier que 347 chiites avaient bien été abattus, mais personne dans l'armée n'a à ce jour été jugé ou condamné pour ce massacre. La moitié de la population du Nigeria est musulmane, quasi entièrement sunnite, avec une petite minorité de chiites, selon les chiffres officiels.
Ouverture ce lundi à Marrakech, au Maroc, de la seconde phase de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette deuxième semaine de la COP22 débute sur une note pessimiste suite à l'élection du climato-sceptique Donald Trump à la tête des États-Unis, dit Lidico.
Après Paris, on va aller certainement à Marrakech vers un tournant. Ce tournant devrait être l'action autour du respect des engagements, d'abord pour les grands pays, de faire de l'atténuation, c'est-à-dire de s'adapter et de polluer moins. L'humanité n'a pas le choix. Si on continue le système de production tel que nous l'avons aujourd'hui, nous allons certainement et très rapidement vers la destruction de notre planète, due à l'émission de gaz à effet de serre. Les pays africains qui subissent les effets de ces changements, sans être des pollueurs, parce que toute l'émission de l'Afrique réunie jusqu'en 2040 sera inférieure à 3%. Donc les grands pays comme les États-Unis, la Chine et l'Europe doivent polluer moins, mais doivent contribuer au financement du fonds vert pour que les pays qui sont en voie d'émergence n'empruntent pas les mêmes schémas industriels. Les alternatives, ce sont les énergies propres, comme le solaire. Le Sénégal vient de montrer l'exemple. Nous venons d'inaugurer deux centrales de 40 MW en solaire et nous allons à 200 MW d'ici l'année prochaine de solaire plus de l'éolienne et de l'hydraulique. Mais on doit accompagner ces solutions. Et le Fonds vert pour le climat doit permettre de soutenir ces États qui font les efforts d'avoir des énergies alternatives. Voilà, c'est la responsabilité des États. Ils doivent l'assumer.
C'était le président du Sénégal, Macky.
Monsieur